quand est-ce que vous aimeriez que ce soit en place et que ce soit fait? Ben, il nous a répondu sans rire. Ben, il dit, j'espère en tout cas d'ici le 31 décembre 2025. Avenir de l'autogare de Chicoutimi. Bon, la sortie de Michel Potvin dans les médias en fin de semaine, ça a allumé le feu aux poudres. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en jaser un peu avec M. Potvin hier à l'issue de la séance du conseil. J'y reviendrai en fin de nouvelles. Mais si on en croit la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, rien n'est encore décidé sur le sort de l'autogare de Chicoutimi. Et même, l'ensemble du conseil et les commerçants seront consultés avant de décider quoi que ce soit sur l'autogare. La mairesse répondait ainsi aux interrogations des citoyens et des citoyennes et aussi de certains de ses conseillers, réagissait indirectement aux inquiétudes qui ont été soulevées, faut le dire, soulevées par la sortie de Michel Potvin dans les médias en fin de semaine. Mentionnons que cette sortie a commis l'effet de soulever bon nombre de questionnements, à commencer par celui de Marc Bouchard, qui a fait part de son étonnement lors de la séance du conseil d'hier. On peut écouter Marc Bouchard.
Au conseil municipal de juillet 2023, on a adopté un règlement d'emprunt de 19 813 000 pour réparer l'autogare du Havre et quelle ne fut pas ma surprise en ayant nos documents de conseil et en lisant le procès-verbal de l'exécutif qu'on a mis un projet en immobilisation pour la déconstruction alors qu'on a un règlement d'emprunt pour le rénover et on n'a pas été capable de me répondre aux questions hier là, quand on a posé ces questions-là. J'aimerais ça avoir des clarifications à ce sujet.
La conseillère Mireille Jean, qui cette fois a parlé non pas en tant que conseillère, mais en tant que propriétaire d'une bâtisse pas loin de l'autogare, bien, elle avait son mot à dire sur le sujet. La voici.
Je suis propriétaire d'un immeuble tout à côté de l'autogare et que, bizarrement, on n'a pas été appelé pour savoir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Peut-être que vous parlez de ceux qui ont le bâtiment directement d'associé à l'autogare. Oui, ils vont être impactés, mais l'ensemble des autres propriétaires aussi sont impactés.
Elle, quand elle disait « vous », elle s'adressait bien sûr à la mairesse Julie Dufour. Donc, en réponse à ces interrogations après la séance du conseil de ville, la mairesse Julie Dufour a tenu à remettre les pendules à l'heure dans le dossier. La voici.
Les choses qui ont circulé, il faut comprendre que 600 000 $ pour déconstruire un autogare, c'est irréaliste. Et je vais me répéter, il n'y aura aucune déconstruction tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas combien ça coûte, comment on peut le faire, les avantages, les inconvénients, et que les gens du secteur soient interpellés, dont les commerçants.
Vous remarquerez que le mot « démolition » a été remplacé par « déconstruction ». « Démolition » devient donc comme un mot à ne pas dire, un peu comme le Voldemort dans les Harry Potter. Et puis, rien ne presse dans le dossier de l'autogare, comme le précise Mme Dufour.
À chaque année, des ingénieurs qui nous certifient que notre autogare est correct, donc qu'il n'y a pas de problématique. Donc, on peut rouler encore comme ça pendant quelques années sans problème. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir toutes les données de professionnels pour être capable de prendre la meilleure décision? Alors, de façon inévitable, il va falloir retourner devant le conseil municipal pour prendre la décision.
Questionné par le 92.5 à l'issue de la séance du conseil de ville sur pourquoi il a fait cette sortie dans les médias qui a mis le feu aux poudres, le conseiller Michel Potvin dit avoir fait cette sortie simplement pour réagir à ce qui circulait, aux bruits, aux rumeurs, aux propos de Mireille Jean également sur le dossier, sans élaborer davantage. Et en terminant, en ce qui a trait au meurtre de Victor Masson qui est survenu, comme on le sait, au mois de mai 2023 au Mexique, Mario Omar Sanguinez Lopez a été déclaré coupable de l'homicide qualifié de Victor Masson. C'est arrivé hier, ce verdict, par les autorités mexicaines au terme d'un procès qui aura duré 6 mois. Telle est la confirmation que le frère de la victime, Édouard Masson, a livrée au journal Le Quotidien. Rappelons que Victor Masson, 27 ans, avait été tué à sa sortie d'un bar au Mexique en mai 2023. Il était alors en voyage en compagnie de sa conjointe lorsqu'il a été tué par balle dans sa voiture. Sanguinez Lopez, qui avait été accusé quelques jours après le meurtre, risque maintenant de connaître une sentence de 30 à 40 ans de prison. Édouard Masson a confié que malgré le verdict d'hier, la famille Masson demeure un peu inquiète, notamment sur le fait qu'il pourrait y avoir une demande d'appel dans la cause. La prochaine audience est d'ailleurs prévue mardi prochain, 8 octobre. Pour ces nouvelles et bien d'autres, chers amis, vous pouvez nous vous rendre maintenant sur le ckaj.org, section Journal Radio 92.5.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
Ici Michel Tifot, accompagné de Dominique Bolduc, je vous invite tous les mercredis avec le réputé Phil Urtubise et ses commentaires sur le monde du basketball de la NBA. Dans le vestiaire, la seule émission de sport de la région de 15h30 à 16h30 du lundi au vendredi au 92.5, ma radio d'ici.
Chez Saguenay Volkswagen, la cour est pleine. Mais faites vite, parce qu'elle se vide rapidement. Mon côté, j'ai pas pris de chance. J'en ai deux dans le cours chez nous. Pour du service et de la qualité, Saguenay Volkswagen, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi. Saviez-vous que vous n'avez pas besoin de sortir de la région pour vous procurer une belle voiture de luxe? Rendez-vous sur le boulevard Saint-Paul et venez découvrir nos modèles sur place avec un service personnalisé. Saguenay Mercedes-Benz.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie, voici votre émission matinale.
On entame maintenant la dernière heure de l'émission en ce 2 octobre 2024. Évidemment, ben on va revenir sur la séance du conseil municipal, Éric et Pat. Il y a quand même eu beaucoup de discussions et beaucoup de dossiers qui ont été touchés. Et même avant cette séance du conseil-là, ben hier matin, il y a eu rencontre avec les commerçants de Chicoutimi-Nord, dont notre collègue.
Une vingtaine
de commerçants, dont Catherine Morissette qui était présente. Puis on a eu la chance de discuter et Madame Morissette qui nous mentionnait que c'était quand même très positif ce qui était sorti de tout ça. On a eu le temps de.
D'échanger.
Voilà. L'échange était quand même très important. Puis. Ceux qui étaient présents parmi les conseillers, bien, on avait Serge Gaudreau et Mireille Jean qui étaient avec nous ce matin au téléphone. Madame Jean, bienvenue.
Merci, bonjour.
Donc, cette rencontre qu'on a eu lieu hier matin s'est avérée, et au dire de certains qui étaient présents, très positive. De votre côté, comment vous avez vu ça?
Bien, écoutez, sur le terrain ou sur place, c'était très intéressant. Je pense que la vibe était excellente. Et là, on a regardé, vous savez qu'on remplit des fiches d'évaluation, question de toujours s'améliorer. Mm-hmm. Puis, de la part de commerçants, vous savez, c'est assez cinglant, un commerçant. C'est pas quelqu'un qui, normalement, mâche ses mots. Bien, sur nos 20 participants, les 20 étaient satisfaits ou très satisfaits de la rencontre, très satisfaits d'avoir eu l'information sur le potentiel du centre-ville de revitalisation. C'était des nouvelles idées, ça les animait. C'était vraiment une belle ambiance là-bas. Puis, je pense que tout le monde était bien content, moi inclus.
Madame Dufour, en conseil municipal, a voulu mettre les choses au clair que c'est une initiative personnelle de vous et de M. Gaudreau de faire ces études-là qui vont prendre et qui vont mettre dans le PPU. Croyez-vous vraiment qu'on va servir vraiment de l'étude?
Bien, écoutez, oui, c'est une initiative personnelle que m'a félicité. Ça m'a surpris, d'ailleurs. Mais oui, je pense que c'est important d'être en contact avec les gens sur le terrain, dans nos districts. Puis quand on fait des activités comme des actions pour le centre-ville, c'est important de rencontrer les commerçants. Donc, est-ce que ça va influencer? Certainement, vous savez que chacun avait un cahier de participants, chaque action était présentée dans le détail et chacun pouvait inscrire ses commentaires, son appréciation de 0, pas de bonne idée, à 10, excellente idée. Donc, cette information-là est colligée. J'ai rencontré les fonctionnaires hier qui travaillent actuellement sur le plan particulier d'urbanisme du centre-ville de Chicoutimi-Nord que j'ai demandé quand même il y a un certain temps, puis que là, il est enclenché. Sans les mettre systématiquement, ils vont quand même tenir compte des commentaires et des impressions des gens qui sont sur place. Ça n'empêchera pas qu'ils vont faire leur processus à eux, ils vont faire leur consultation officielle, ça c'est parfait, mais ça donne vraiment une information de plus qui va aider à faire justement un plan particulier d'urbanisme le plus précis possible et surtout le plan d'action qui va aller avec, qui va être en concordance avec ce que s'attendent les gens du secteur.
Y a-t-il déjà eu des études sur le centre-ville de Chicoutimi auparavant?
Il y en a eu quelques-unes. Je pense que c'est normal. Un centre-ville, c'est en continu. Puis autant dans les autres centres-villes de Saguenay ou ailleurs, il y a sûrement des études parce que c'est vivant. Il faut que ça ressemble à qui on est dans le moment où on est. Donc oui, il y a eu des études. Il y en a qui ont des idées, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le bord du Saguenay dans ce coin-là? Qu'est-ce qu'on fait avec le centre-ville? Oui, il y a des études qui ont déjà été faites.
Vous
c'est
aviez...
bien, il faut que ça se fasse.
Oui.
Mais il faut toujours se remettre à jour. Parce que le goût des commerçants change et certainement les habitudes de consommation des consommateurs changent aussi. Il faut toujours se revoir dans les centres de commerce comme nos centres-villes.
Dans les dernières années, vous étiez sur le comité du conseil de centre-ville, des centres-villes de comment s'appelle ça? Comité des centres-villes à Chicoutimi.
L'association? Oui.
Est-ce qu'eux ont commandé?
Je suis observatrice.
Vous êtes observatrice. Est-ce qu'eux auraient commandé probablement une étude? Est-ce que vous l'avez vu passer, celle-là?
La commande pour Chicoutimi-Nord de l'association du centre-ville?
Oui.
Je ne sais pas. Là. C'est peut-être un peu précis comme question. Je ne sais pas si spécifiquement celle du centre-ville, l'association du centre-ville a été analysée. Là.
Parce que ma question était que si c'était quand même commandé par les corporations de centre-ville, l'association, est-ce qu'on aurait pu les voir puis partir de ces résultats-là pour essayer de gagner du temps?
Bien, on a plus gagné du temps dans la manière qui était proposée. Vous savez, c'est pas ce qui est proposé dans mes ateliers, comme j'ai fait du côté sud et du côté nord, c'est pas des grandes philosophies, de voir les grandes orientations, puis dire ce que vous aimeriez, ce que vous aimeriez pas. C'est pas une consultation sur qu'avez-vous comme idée? C'était plus le contraire. Moi, avec le background que j'ai, l'expérience que j'ai des centres-villes et du développement urbain en général, et ça, c'est mon district, j'ai plein d'idées. Ces idées-là, quand je peux les transférer, effectivement, comme des actions précises dans le secteur. Mais ces idées-là, je trouvais que c'était mieux de les présenter directement pour dire, sur le plancher des vaches, là, si on fait une traverse piétonnière dans ce coin-là, qu'est-ce que vous en pensez? Si on a un sens unique, qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait une place de rassemblement citoyenne dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous en pensez? Si on met en valeur la rue du Rocher avec un parc linéaire qui nous donnerait un avantage sur ce qu'on découvre du côté sud, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'était dans cet esprit-là, qu'est-ce que vous pensez d'actions concrètes qu'on va pouvoir, avec le conseil d'arrondissement, mettre en œuvre plus rapidement possible. Et ça n'empêche pas les grandes réflexions qui doivent se faire. Puis ça, dans le contexte du plan particulier d'urbanisme, ça se fait aussi. Fait que c'est des approches qui sont différentes, mais la mienne est très plancher des vaches. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne suis pas en train de demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Des idées, j'en ai en masse. S'il y en a des idées, naturellement, elles sont prises. Puis c'était l'idée d'avoir le cahier. Donc, les idées que soulèvent mes idées, elles sont prises en note. Mais c'est agréable, étant moi-même une femme d'affaires depuis, je ne vous dis pas le nombre d'années, je sais qu'on veut aussi, même si je suis une académicienne, je veux aussi avoir des choses concrètes à discuter. Ah oui, on pourrait faire ça. Là, je le vois directement pour mon commerce. Qu'est-ce que ça pourrait donner ou qu'est-ce que ça pourrait ne pas donner?
Justement, vous en parlez de ça, que vous avez fait des affaires, vous êtes en affaires. Vous avez un bâtiment sur la rue Racine. Et je posais la question déjà, savoir qui sont les promoteurs qui peuvent vraiment être appelés pour dire, échanger avec la ville pour préparer ce qui s'en vient, le nouveau centre-ville 2.0.
Est-ce que c'est ouvert à tous?
Ou on choisit vraiment les gens? Est-ce que vous auriez dû normalement être informé au moins de ce qui concerne le stationnement du Havre?
Ça serait un minimum que moi je sois informée, d'autant plus que c'est mon district, que j'ai des compétences là-dedans, que j'ai le goût de faire avancer ça. Ça aurait été un minimum. L'autre minimum, les élus de l'arrondissement. L'autre minimum, peut-être l'ensemble. Là, actuellement, on n'est pas dans le circuit, mais vraiment pas. Là. Puis je pense que ça dessert l'ensemble de la population, autant ceux qui sont au centre-ville qu'à l'extérieur. Lorsque la mairesse, Julie Dufour, dit qu'elle a rencontré les promoteurs ou les propriétaires directement touchés par la disparition potentielle qu'elle veut faire, je ne sais pas pourquoi, de l'autogare, mais que c'est qui qu'elle a appelé? C'est qui qu'elle considère comme étant impacté?
Ouais.
Est-ce que parce que tu n'es pas directement sur le 393, par exemple, les propriétaires du 393 qui est ancien télésage, est-ce qu'ils ont été appelés? Ils ne sont pas directement touchés, mais si vous avez fait l'autogare, je vous dis qu'ils vont prendre ça dur.
Ben oui.
Est-ce que les autres commerces qui sont de l'autre côté de la rue, qui ont besoin aussi d'avoir accès à cette autogare-là, ils ont-ils été appelés? Bien, je ne sais pas. Mais ça me surprendrait parce que je l'ai entendu parler, mais c'est pour ça que j'ai mentionné. Quand la mairesse a dit « Ah, ils ont été appelés, blablabla », bien, coudonc, comment ça se fait que moi ou mon partenaire n'a pas été appelé? Puisque oui, je suis impactée, j'ai des locataires, j'ai des commerçants qui sont chez moi, et que si ça s'était démoli demain matin, ils seraient impactés. Là. Ça, c'est des propriétaires, mais on parle aussi des commerçants. Qu'en est-il des commerçants qui vont être impactés? Ils ne sont pas importants, ils ne sont pas demandés. On va parler entre 3-4 personnes derrière des portes closes. C'est inacceptable.
Donc, vous confirmez un peu que la question se pose, parce que quand on a l'impression, quand on voit, par exemple, un nouveau projet qui se concrétise, très souvent, ce sont les mêmes promoteurs qui reviennent.
On dirait qu'on joue au Monopoly.
Bien, moi, je vous laisse dire ça vous-même, mais les questions méritent d'être posées. Puis, vous savez, la manière de gouvernance qui est là actuellement avec Julie Dufour, c'est une gouvernance derrière des portes closes. Puis ça a comme effet de créer de la suspicion. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est peut-être positif, c'est peut-être négatif. Comme vous aussi, vous êtes en train de penser des choses comme ça.
Mais on ne sait pas.
C'est grave. Donc, c'est ça. Quand on ne sait pas, on imagine. Puis on imagine le pire. Puis c'est normal parce que on devient inquiet. Ça, c'est un effet, c'est-à-dire qu'on se met à imaginer plein de choses qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être pas vraies. Mais c'est ça, une gouvernance cachée comme c'est fait. Mais c'est aussi le fait que les gens ne sont pas impliqués puis pour pouvoir participer aux réflexions. On se prive totalement de l'intelligence collective qu'on peut avoir avec les gens. Comme si nous, les deux, trois initiés, là, on va savoir ce que ça va vous prendre, puis on vous informera après. Ben non! Va chercher l'ensemble de l'intelligence du monde, travaille avec eux autres, c'est comme ça qu'on aura la meilleure idée. Oh, tu n'auras pas le crédit complet, c'est sûr, parce que ce n'est pas toi de ton haut savoir qui dit que j'ai pensé à ça. C'est l'ensemble, le crédit va être à l'ensemble de la communauté, mais c'est comme ça qu'on fait une communauté qui est solide, qui est résiliente, puis qui va quelque part, puis qui est contente de ce qu'elle a autour d'elle.
Madame Jean, ça fait un grand plaisir de discuter avec vous ce matin. Merci.
Bien, ça m'a fait un grand plaisir aussi. N'hésitez pas pour une prochaine fois.
Absolument. Yep. Une très bonne journée.
Au revoir.
Mireille Jean, conseillère municipale du côté du centre-ville de Chicoutimi, et donc qui revenait sur la rencontre qu'il y a hier, la séance du conseil.
Mais ça amène des questionnements. Elle l'a bien expliqué, oui. Mme Jean, le fait d'être caché comme ça avec des portes fermées. J'ai vraiment l'impression qu'on joue au Monopoly, mais pas avec quatre joueurs, avec deux ou trois. Puis on choisit qui va être là pour le nouvel développement.
En fait, c'est comme si on joue au Monopoly, mais chacun dans leur
chambre. Chacun chez soi.
Chacun chez soi.
On s'en va vers la ruée, vers l'or, mais quand ça va être annoncé, les pions vont être déjà placés.
C'est ça, exactement. Et les conseillers ont l'air à pas être au courant de ce qui se passe.
Pas en tout. Hein, Michel Tremblay en était outré. Hein.
Donc, c'est un petit peu déplorable. Puis je tenais à poser cette question, savoir, tu sais, quand on voit un investissement... C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Les hommes d'affaires, toujours les mêmes. Pourtant, les hommes d'affaires, il y en a plein qui seraient prêts à investir, à mettre leurs sous, mais on dirait qu'il y a des clics. Je ne sais pas. 8h16, c'est le temps de la petite vite de Jean-Claude Gélina.
Les petites vites de Jean-Claude Gélina, une présentation de la boucherie Daniel et Rémy, rue de Lille, Chicoutimi Nord. À la boucherie Daniel et Rémy, comme le dit Régent de Terrebonne, on ne travaille pas à cochon, mais on a du maudit bon porc.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière. Vous êtes nombreux à adorer l'ambiance familiale du restaurant 4 chemins.
Ouais, mais Dom, il y a les travaux de réfection sur le pont sur la rue du Vieux-Pont.
C'est pas grave, on fait le détour, car au restaurant 4 chemins, ça vaut le détour.
Et en voici les raisons.
L'excellente pizza déjeuner, le club déjeuner.
Wow!
Les assiettes garnies et avec du goût.
Le menu du jour avec une soupe, plat principal et dessert avec un choix des plus variés et c'est savoureux.
Et que dire des prix qui sont abordables?
Le restaurant 4 chemins, 2234 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière, ouvert de 5h le matin à 14h et ce, 6 jours sur 7.
Ça vaut le détour!
L'apéro du dimanche, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau rendez-vous. Allô, ici Joël Garneau. J'ai le plaisir de vous attendre maintenant, les dimanches, juste après le bingo. Je vous propose les souvenirs que vous aimez, des trésors musicaux retrouvés, un 5 à 7 où on voyage dans le temps. L'apéro du dimanche avec la musique que vous aimez, juste après le bingo, au 92.5, 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un rendez-vous.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Développement durable.
Lise Tremblay, agente d'accueil.
En 2009, la coopérative s'est engagée dans une politique de développement durable. Avec cet engagement, la coopérative désirait s'impliquer et s'investir dans ce grand enjeu planétaire, tout en se positionnant comme leader en matière de développement durable dans le secteur funéraire et dans sa communauté.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à chaque instant.
Tous les mardis, à 21h, retrouvez Il faut qu'on se parle sur CKAJ avec vos animateurs Raphaël Bordelot, Ludovic Desrochers, Noah Lepage et Jules François. Des analyses d'actualité et une couverture pendant une heure de toute l'actualité provinciale, régionale et internationale. C'est seulement sur CKAJ 92.5 le mardi de 21h à 22h.
Acheter une maison, c'est comme gravir une montagne. Tout le monde peut le faire, mais il faut être bien accompagné. Vos rêves d'ascension vers la propriété peuvent devenir réalité avec les courtiers de l'équipe Everest.
Et Alexandra Desbiens qu'on retrouve ce matin.
Bien, grand retour de la rentrée.
Très content de te revoir.
Tellement content de vous revoir, les gars. Vous m'avez beaucoup manqué pendant cet été, sincèrement.
As-tu passé un bel été?
Magnifique, magnifique, très occupé. Évidemment, on a vendu des maisons en mars, c'est ça notre travail. Puis ça me surprend quasiment. Le rythme là, a été assez intense.
On s'attendait à un ralentissement, évidemment. Là, on a vu les taux d'intérêt commencer à baisser. Moi, j'ai vu une maison dernièrement mise en vente, ça n'a pas pris 10 jours. Vendu.
T'as tellement raison.
C'est fou, ça n'arrête pas.
C'est capoté. Puis même nous, on est surpris, les courtiers immobiliers, on est tout le temps comme sous nos gardes. Ils nous disent ah, OK, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait plus où donner de la tête. On se dit bien, on ne le sait plus. Sincèrement, on pensait qu'à un moment donné, ça allait planter. Là, ça se maintient, mais ça augmente encore. Je ne sais pas jusqu'à où l'élastique va s'étirer avant qu'il se passe quelque chose. Mais pour le moment, on est encore dans l'étirage d'élastique au maximum.
Il faut croire que les gens ont les moyens parce que s'ils passent à la banque pour acheter une nouvelle maison, j'ose imaginer, bien écoute, ça fonctionne, il n'y a pas de problème.
Étonnamment, exactement. Puis je vais avoir des belles statistiques pour vous parler justement du marché, de où on en est. Là, puis c'est assez frais, c'est quand même de août dernier. Donc je pense que ça va être intéressant. Puis je pense qu'on va être capable de lire entre les lignes de ces statistiques-là ensemble. Premièrement, je voulais vous dire, les ventes. Les ventes, évidemment, la quantité de maisons qui est vendue a augmenté. Si on compare à août 2023, c'est de 11 % C'est quand même beaucoup, 11
%. Par rapport à l'an dernier,
moi, je capote parce que je me dis, on le voyait augmenter, mais 11 % c'est quand même énormément. Puis, à l'inverse, ce qui va nous prouver qu'on est encore une fois dans un marché de vendeurs, c'est que les inscriptions, c'est-à-dire les maisons qui sont inscrites sur le marché, sont en baisse de 9 %. Fait que moins de maisons à vendre, plus de ventes rapides. Qu'est-ce que ça fait? Encore un débalancement, puis ça fait en sorte qu'on
donc,
est toujours dans
ce qui se met à vendre en ce moment se vend tout de suite.
Exact. Puis j'ai même des stats là-dessus, puis c'est tellement intéressant. Même en les lisant ce matin, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va tellement leur parler, puis ça va leur démontrer à quel point que le marché est puissant et fort. Puis ça va vraiment aussi venir chercher la fibre qui est très frustrée des acheteurs, puis je les comprends tellement, on est tellement d'accord avec eux, comment c'est fâchant, puis que ça fait plusieurs années que ça dure, puis que l'accessibilité à la propriété... Hey, il s'en est-tu écrit des articles? Il s'en est-tu coulé de l'angle là-dessus?
Puis il doit y avoir du monde qui ont essayé, puis ils réussissent jamais à l'avoir à la maison.
Exact. Oui, qui ont essayé plusieurs offres d'achat, puis c'est très frustrant parce que est-ce qu'ils l'avaient... Tu sais, j'ai un exemple de clients que j'adore, qui sont super fins, qui ont un bon budget, qui n'ont rien de mal. Mais ils ont essayé, puis c'était tout le temps proche, tout le temps proche. Puis tu sais, la même maison qu'ils auraient acheté, peut-être 270 000, voilà 2 ans, aujourd'hui, elle va se vendre environ 350. C'est énorme.
C'est
la
fou.
Même maison, pas de réno quasiment.
Ben, j'ai un ami comme ça dans la région de Québec qui a acheté l'année passée, il y a un an et demi. Il avait payé comme ça 289, je pense, du côté de Saint-Rédempteur. Puis il dit, ah, finalement, je reviens à la rive nord de Québec. Il dit, là, fin d'année, je la vends. 375.
Pas surprise.
Puis j'ai rien touché, là.
Même pas de la peinture quasiment. Ouais.
Pas
c'est
du
incroyable.
Tout.
Vraiment. Puis je trouve ça intéressant de regarder même le prix moyen. T'sais, on est à 292 500, le prix moyen. Avez-vous pensé au revenu moyen? Est-ce que, selon vous, il augmente en conséquence? Pas du tout.
Je me souviens quand on a commencé à se parler il y a quelques années, tu l'as ici, Alexandra, là, on parlait des maisons des fois. Hey, une belle petite maison, ça a du bon sens. Elle est à 185 000, c'est vraiment, ça a du bon sens. Là, on n'a plus rien en bas de 250. Mettons, une belle maison, il n'y a plus rien en bas de 250.
Ben, pour être honnête, c'est plus 300. Honnêtement, là, je ne veux pas décourager personne.
On est rendu là, au Saguenay.
Oui, mettons dans un quartier comme, tu sais, un bon quartier.
Un beau quartier, une belle maison à briques et tout ça, là, c'est 300 000.
Oui, facile. Puis tu pourrais avoir des rénovations à faire. Tu pourrais avoir des salles de bain des années 80 puis une cuisine des années 2000.
Mais
puis ça serait super. Là.
Mais ça se vend encore.
Ça se vend. C'est ça l'affaire. C'est ça la loi du marché. Des fois, les gens, ils pensent que les courtiers immobiliers, c'est de votre faute. C'est vous qui décidez. Je décide à rien pantoute.
C'est pas toi qui décides de tu vas mettre ta maison en vente. Puis non, c'est ça.
Mais les gens, ils nous disent ça parfois sur Facebook. Puis ça me fait beaucoup rire. Je fais écoutez, que je la mette à 400 la maison ou à 250, elle va sortir à 400. Ça vaut 400. C'est pas moi qui décide.
Si la personne est prête à payer ce montant-là.
Exact. Fait que peu importe. Rendu là, c'est plus de notre faute. Fait qu'on se déculpabilise dans ce sens-là. Puis nous, on essaye d'aller. Québécois, on veut travailler pour que nos clients aient, c'est sûr, le plus possible dans leur poche, mais on affiche au prix juste, puis après ça, le marché fait son travail. Là.
Voilà.
Puis je voulais vous parler, puis si tu trouvais ça intéressant ce que tu as dit tantôt à propos du fait, une maison à 185 000 qui avait du bon sens, bien, je veux juste vous parler de gamme de prix. Qu'est-ce qui existe au Saguenay? En bas de 150 000, c'est 4 %. C'est quasi impossible. Une maison 150 000, ça n'existe
ça
quasi
existe
plus.
Ou tu vas payer des rénaux à mettre, puis on va t'en revenir à 400 000 au total.
Oui, oui, probablement, effectivement. Puis même
incroyable.
Si on tombe
moi,
dans le
tout
ratio...
Moi, j'ai l'extérieur, le toit à refaire, je suis dû pour faire ça. Là, même malgré tout ça, tu pourrais vendre ça quand même à un certain prix.
Oui, 150 000, ça n'existe plus. Ça même existe des plus. Maisons mobiles... Tu sais, sur cage, là, pas une fondation, mais sur cage, c'est à peu près 200, là, entre 180 et 215 000.
Pour ça que toi, toi?
Oui, j'ai payé, je vous dirais pas comment, là, mais 4 fois moins que ça.
C'était des 5 chiffres, hein?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ah, j'imagine.
Mais pour payer des 6 chiffres, puis 5 chiffres à moitié de... À moitié de 6 chiffres.
Puis même, messieurs, là, si on monte là, de 150 à 220, tu sais, 150 à 220 000, tu avais quand même quelque chose qui faisait qui pouvait être correct.
Tu avais un beau bungalow.
Tu avais quelque chose de bien. Mm-hmm. Puis c'est seulement 8 %. Fait que là, on se ramasse avec 12 % en bas de 220 000. Puis hein? C'est là que je trouve extrêmement intéressant les chiffres. C'est que ce qui passe là, de 220 000 à 370 000, c'est 42 %. 42 % des maisons
la
se vendent.
Moitié.
Hey, mais vous réalisez-vous à quel point les budgets sont concentrés, que les maisons semblables, unifamiliales, sont toutes prises dans un moton. Fait qu'il faut pas se surprendre après qu'on fait « Ah, mais moi, est-ce que je vais avoir de la surenchère? » Ben écoute, c'est dans un bon quartier que tu as 3 chambres, 2 salles de bain, un terrain qui se tient, qui fait mm-hmm. du sens, puis que ta maison est bien entretenue, c'est il y a des bonnes chances. Là.
Ben
si
oui.
tu es bien inscrit, il y a des très bonnes chances que tu partes en surenchère. J'en
Donc,
ai fait
des fois, quitte
semaine.
De mettre le prix un peu plus élevé pour voir ce que ça va faire. Mais très souvent, mais c'est ce qui arrive. Et, OK, parfait, à ce prix-là, je la prends.
Exact, c'est ça. Donc, on va. Puis, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que même si on arrive avec un prix qui est exact, dans 54 % du temps, fait que la moitié du temps, tu vas avoir ton prix demandé. Hey, la moitié du temps, c'est impensable de penser qu'autrefois, on aurait négocié.
Ben oui,
on
ça,
s'attend
oui.
à avoir une négociation. Puis c'est là où ça me forge pour les acheteurs parce que je me dis, Colin, eux autres, ils arrivent, ils se fixent un budget. Ou pire encore, ils se fixent un budget à 300. Ils magasinent pour du 300. Finalement, la maison est inscrite à 300, mais ils ne sont même pas sûrs d'avoir l'argent pour l'acheter, la maison à 300. Parce que si ça va en surenchère, ça sort à 325 000, ben ces gens-là,
25 000,
ils l'ont visité pour rien.
Fait
que c'est quoi? Tu visites du 275 pour avoir une chance de l'avoir à 300?
Oui, je comprends.
Fait que toutes les nouvelles inscriptions sont très à risque, encore plus d'avoir de la surenchère. C'est là que c'est important vraiment de fixer le budget vraiment de manière raisonnable, puis de ne pas aller au bout de son budget si c'est une nouvelle inscription, parce qu'on s'en doute que ça va sortir en surenchère. Mmh. Tandis que si c'est une plus vieille inscription, là, on sait qu'on a un petit peu plus de lousse, si
ben
on peut
oui.
dire. On le sait qu'il y a moins de chances qu'elle sorte en surenchère, ouais. puis encore là, c'est encore drôle. On a vu quelques-unes que ça faisait, mettons, 2 mois, pas de mouvement. Mais tu sais, des fois, le jeu du marché est intéressant parce que son comparable s'est vendu la semaine d'après. Là, il n'y a plus rien qui y ressemble, puis il devient comme la maison... fantastique, parce que là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a
ça,
plus de comparatifs. Fait qu'il fait comme, hey, finalement, je me retrouve en surenchère, j'ai 2-3 offres après 2-3 mois, ben c'est quand même pas rien. Là, on le voit régulièrement. Là, fait que,
incroyable comment le marché a changé.
C'est capoté, puis moi, ce qui me fait capoter, c'est que même dans la surenchère, on a encore 14 % des maisons qui se vendent en surenchère. C'est quand même beaucoup, 14 %.
C'est
fait que moi, ça m'impressionne vraiment, puis 31 à la baisse, contrairement à avant, c'était quasi 100 % du temps à la baisse. Là. On le savait très bien. Tout le monde sait qu'une maison... C'est pas un prix qui est nécessairement fixe, mais savez-vous, ces temps-ci, peut-être qu'il faudrait se fier à ce prix-là, finalement.
Ouais.
Probablement.
Donc, s'il y a une maison incroyable. Qui se vend à 349, ben, il y a des bonnes chances qu'elle sorte à 349.
Au minimum.
C'est très grosse chance
oui,
qu'elle sorte à 349.
Oui, une chance sur deux.
Une chance
c'est
sur
fou,
deux.
Hein, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est capoté. Fait que tout ça étant pour dire que je trouve que c'est important de se fier à son courtier immobilier, puisque finalement, le courtier, c'est vrai, c'est tellement le professionnel. Puis pour faire l'offre d'achat multiple régulièrement, je peux vous garantir que... Les courtiers d'expérience, ils savent comment aiguiller. Puis quand ils vous disent un prix, c'est pas pour rien. L'équipe Everest, quand on vous dit un prix, c'est pas pour rien. Puis ça peut être des fois une différence de 1000$, 500$. Fiez-vous mm-hmm. à des professionnels mm-hmm. parce que ça peut faire la différence. Un 500$ entre une maison où j'en aurais pas avant 2 ans.
Ouais.
Fait que c'est vraiment important de faire affaire avec des pros là-dessus. Puis surtout dans un marché comme celui-ci, les acheteurs, c'est gratuit de toute façon. Fait que s'il vous plaît, prenez un courtier immobilier. C'est sûr, je serais content que vous preniez un courtier de l'équipe Everest. Mais s'il vous plaît, au moins prenez-vous un courtier de votre choix.
Il y a quelque chose qui a changé aussi pendant la dernière fois qu'on s'est vu.
Vas-y.
De 25 à 30 ans maintenant pour l'achat d'une maison en financement, c'est
oui,
possible.
Exact.
Est-ce que ça va donner de plus en plus de gens même à avoir acheté par ce détail-là?
Est-ce que ça a un gros impact justement sur, par exemple, le montant à payer par mois?
Ben ça reste un incitateur. Hein. Fait que ce
oui.
soit les baisses de taux d'intérêt qu'on a pu remarquer mm-hmm. et ainsi que justement l'augmentation pour les grosseurs d'hypothèques, ce qu'on ne voyait pas beaucoup au Québec, on voit beaucoup plus. Mm-hmm. En Europe, c'est sur
exact.
Des générations, là, les
tout
hypothèques, c'est incroyable. Est-ce qu'on s'en va vers un marché où finalement on va acheter la maison de nos parents parce que c'est tout ce qui est accessible et que c'est payable sur plusieurs générations, ou
ben,
on va être capable de venir à bout de...
À Vancouver et ces endroits-là où les maisons sont rendues 1,5 puis 2 millions pour des petites affaires, ils achètent sur 2 générations, c'est-à-dire qu'ils achètent sur 50 ans en disant ben, les enfants vont ramasser la maison puis la dette avec.
Incroyable, hein? Tu sais, pour
fou.
Nous, c'est impensable.
De
alors
miser là-dessus, c'est bizarre.
Puis rappelez-vous, je vous ai déjà dit que les Québécois, en règle générale, on déménage aux 5 ans. Imaginez.
C'est ça. Et ça surprend bien des gens. Les touristes qui arrivent ici, je comprends pas, les gens au Québec, ils déménagent. Dans certains pays,
ça
comme en France, c'est
luxe
impensable.
Par contre, en France, ils achètent l'appartement.
Ouais.
L'appartement leur appartient. C'est sûr, tu déménages moins quand tu l'achètes parce que là, faut que tu le vendes et tu n'achètes
un
autre.
C'est comme un condo.
C'est la même affaire que nous, ça change rien.
Non, parce que si tu déménages, tu dis, bon, ben, regarde,
arrange-toi avec le logement, moi je m'en vais ailleurs. Là, faut que tu vendes ton logement avant d'en acheter un autre. Fait que c'est plus la même chose,
mais t'es propriétaire. Mais c'est la même chose dans le sens où si t'es propriétaire d'une affaire, faut que tu le vendes avant ici.
Oh, oui, la maison.
Mais eux, ils ont quand même des logements à louer là, en Europe.
Oui, mais beaucoup moins. C'est parce qu'ils disent, eux autres, ils comprennent pas qu'on déménage de logement. C'est à chaque année.
De logement à logement.
C'est beaucoup moins compliqué que de vendre quelque chose.
Non, je comprends, c'est sûr. Mais même, tu sais, je veux dire, même les ventes de maisons, ça n'a rien à voir avec le marché.
Non, non, c'est sûr.
On déménage régulièrement. On se donne beaucoup de troubles pour les changements de nos besoins. Moi, j'adore ça. Je suis contente.
Comme tu dis, aux 5 ans, en moyenne.
C'est parce que nous, c'est pas un besoin. On le fait parce qu'on le veut.
Je pense que c'est culturel. Sincèrement, ça doit être culturel.
Ah, je t'annule ma maison, j'en veux une plus grande. Ou bien là, je vais en rénover une autre.
Exact. Puis on essaye d'autres choses. Puis c'est bien correct. C'est juste que où ça va nous mener tout ça, on le sait pas.
Un marché plus dur, c'est sûr.
Exact. Puis je tiens juste à dire que j'ai vraiment beaucoup de compassion pour les acheteurs. Je suis contente pour les vendeurs. Puis j'aime ça qu'ils puissent en profiter. Puis quand tu vends, puis tu profites de ce marché-là, puis après tu rachètes, bien, tu sais, tu fais un peu faire ta propre médecine.
Bien, c'est ça, au bout du compte. Tu vends plus cher, oui. Mais tu vas payer plus cher pour l'autre.
C'est ça.
Mais grand chanceux. Tu gagnes pas tant que ça.
Ben moi, je pense que tu gagnes plus que quand tu es un nouvel acheteur puis là, tu n'avais rien à vendre. Ça, c'est sûr. Donc là, tu perds à 100%. Là, c'est sûr. Tu es sûr de, ben, pas de te faire avoir. C'est pas vrai du tout.
Pas perdre, mais dans le fond, tu vas payer beaucoup plus cher que tu aurais payé.
Exact.
Je suis content pour les vendeurs, ceux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a des grosses pensions aussi. Puis souvent, ceux qui avaient des maisons, qu'on pensait pas qu'on était riche dans le temps d'avoir une maison, mais qui vendent 100 000 de plus, 100, 150 000, ça va aider pour ce qui s'en vient pour la pension.
Question que je me pose justement, est-ce que tu vois beaucoup de personnes âgées qui, bon, décident de vendre maison pour s'en aller, par exemple, en foyer et tout ça, ou de plus en plus, les gens veulent demeurer dans leur résidence en disant, bien, je peux rester le plus longtemps possible, mais si je vends, ça va être payant, là.
Mais t'as vraiment, c'est vraiment une super bonne question, puis on me la pose souvent. Tu sais, vu que ça fait 8 ans que je fais ça, ben je le sais qu'est-ce que c'était avant la pandémie. Mm-hmm. Je l'ai vécu pendant longtemps. Puis on avait vraiment beaucoup plus de déménagements dans des résidences ou dans des appartements pour les personnes âgées. Puis là, on en voit tellement moins des maisons de personnes plus âgées. Puis je pense que, puis ça, c'est de mon expérience à moi, là, je veux pas parler pour les autres, mais il y en avait vraiment beaucoup plus. Puis je pense que la pandémie a juste fait en sorte que tout le monde était découragé de l'état des CHSL, des résidences pour personnes âgées, etc. Il y a plein de raisons.
Mieux rester chez eux aussi.
C'est ça. La rétention, je pense, est beaucoup plus grande qu'avant, mais il y a un certain risque à étirer cet élastique-là aussi. Parce, est-ce que ça veut dire que les gens vont... Oui, s'ils ont des services, ça va bien aller, mais si ça va moins bien puis que l'entretien des maisons ne se fait plus, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de maisons détériorées à cause de ça? Est-ce qu'ils vont finalement perdre aux chances d'avoir trop attendu de vendre leur maison? C'est une question qu'il faut se poser, qui serait importante, là, à propos des services, surtout, qu'on peut donner aux personnes âgées.
C'est pas facile à évaluer ça. Hein?
Non, vraiment pas. Puis on est comme eux autres, là. Nous autres non plus, ça nous tente pas d'y aller en résidence. Fait qu'on les comprend parfaitement, mais en même temps, il faut savoir, à un moment donné, peut-être vendre quand on peut tirer le maximum de profit de tout ça. Là.
Alexandra, si tu avais une maison à nous présenter ce matin.
Ouais. Absolument.
Elle a son coup de cœur.
Oui, j'ai mon coup de cœur.
Je suis prêt, là. Je suis déjà sur la page de Centris. Oui,
absolument. Allez-y sur la page de Centris maintenant parce que je vous présente une vraie de vraie maison coup de cœur. En fait, c'est le 436 rue du Cap à Larouche. Sincèrement, là, si je pouvais, si j'avais assez de... C'est même pas assez d'argent, c'est genre assez de temps pour y aller, là. C'est sûr que je l'achèterais. Elle est magnifique. En fait, c'est un magnifique bord de l'eau. Il y a un accès au lac Kenogami, bien entendu. C'est situé dans la baie Kaskouya. Mm-hmm. Donc, donne accès au lac Keno. Honnêtement, là, je pense que c'est dans les top 3 des plus beaux terrains que j'ai vus au lac Keno. Il est magnifique. Puis, je trouve que les photos ne livrent pas encore assez. On va retourner en prendre d'ailleurs. Mais je vous le dis, là, c'est un terrain en pente. La maison, c'est un rez-de-jardin. Fait qu'on n'a pas de sol. Des portes patio partout qui donnent vers la vue. Le soleil plombe toute la journée vers l'eau et se couche dans la cour.
La cuisine avec les fenêtres en haut, là, l'éclairage
qui rentre. Le toit cathédral. Parlons-en. Le foyer au propane. Cette maison-là, c'est une maison qui n'est pas grande. Elle est coquette. Fait que c'est parfait soit pour une résidence secondaire ou encore un couple ou une petite famille. Mm. Si vous avez 2 enfants, oubliez ça, ça ne rentre pas.
Non.
Mais un couple qui veut aller passer du temps en campagne, je peux vous garantir que moi, je suis allée la visiter hier et c'est relaxant. Juste d'entrer sur le terrain, tu fais « Oh mon Dieu, je me sens en vacances. J'ai envie de créer des souvenirs ici. » Puis pour moi, si ça, c'est pas une maison coup de cœur, je sais pas qu'est-ce que ça vaut.
Mais t'as pas besoin de chalet qu'une affaire de même. Exact. Tu peux vivre très bien à l'année là-dedans, puis être enfant nature en même temps aussi.
Puis c'est un coin tranquille. Les voisins, on les entend ensoleillé. Pas. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain. C'est la tranquillité d'esprit, 1 garage, 1 pergola. Tout ça, là, tout est fait pour profiter du dehors tranquillement.
Tout est moderne.
Moi, j'ai envie de prendre un bon verre de vin, de se faire un beau souper fondu à l'extérieur, me coucher dans une doudou, faire un feu de foyer. Tout ça m'inspire que de la joie et des beaux souvenirs.
Et l'accès au lac Kenegami est très simple, là, les direct. Images. Là,
c'est beau, ça fait direct. Même des petites maisons dans le sud.
Oui, quand tu vois, c'est les resorts, le souvent,
là, avec l'éclairage orange, les timbres oranges.
Mais elle est sur la coche, l'entretien est incroyable. Les propriétaires, là, ça leur coûte de la laisser aller. Ils ont plein de nouveaux voyages qui leur attendent. Fait que, mais ils ont été heureux. Là, puis moi, ce que je m'attends, c'est de trouver des acheteurs qui vont être aussi heureux que eux.
Gros garage été, aussi pour le gars.
Oui, c'est ça. Il y a du rangement, absolument. Puis sincèrement, là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Elle est listée à 575 000. Puis je pense là, qu'elle restera pas longtemps sur le marché ça parce que des beaux des belles maisons avec un beau terrain au Lac-Cano, ça n'existe plus.
Et tu sais qu'on parlait de montant parce que quand on regarde l'évaluation municipale au niveau du bâtiment et du terrain, on est à 242 000 mm-hmm. et elle se vend 575 000. Mm-hmm. Donc c'est là que la demande, elle est là.
Elle est là, puis je suis pas inquiète là. Pas du tout inquiète, mais il faut dire que l'évaluation municipale, dans ce cas-ci encore plus, ils ont fait des rénovations majeures.
Oh, OK.
Majeures. Fait que, tu sais, probablement qu'un jour, l'évaluation va repasser.
Va changer, oui.
C'est sûr, parce que là, elle n'est clairement pas à jour. Là. Ils ont fait vraiment des grosses.
Ils ont dit le bâtiment 189 000. Comment ça va dépasser
les oui, parce que j'ai vu les photos avant, puis je peux vous garantir que c'était vraiment pas le havre de paix que je vous parle en ce moment. Vraiment pas.
Donc, 436 rue du Cap. Du côté de Larouche, allez voir ce bijou sur centris.ca.
Absolument. Puis si vous voulez plus d'informations, évidemment, communiquez avec moi, Alexandra, donc au 581-234-2355. 581-234-2355.
Alexandra,
c'est un plaisir.
Tu seras toujours la bienvenue ici en studio.
Merci, on se dit à la prochaine. Vous m'avez manqué.
Ah, bien écoute, c'est toujours un plaisir de te revoir. Dans quelques instants, Max Bradette pour terminer l'émission.
Bonjour, ici Jean-Marc Robitaille.
Salut, moi c'est Stéphanie Bellé.
Bonjour, ici Mario Vézina.
Ce sont nos représentants publicitaires du 92.5. Ils sont compétents et ils vous proposent des idées originales. Appelez au 418-546-2525, extension 107, pour rejoindre facilement Jean-Marc, Stéphanie ou Mario. C'est prouvé, une publicité au 92.5 vous gardera occupé parce que nos auditeurs sont fidèles.
Chaque jeudi 8h20, on vous invite dans l'émission Réveillez-vous. Un nouveau collaborateur très connu dans la région dans le domaine des assurances sera présent pour discuter avec vous et parler des enjeux qui s'y attachent. Souhaitez la bienvenue à Pierre Lévesque et soyez au rendez-vous à tous les jeudis 8h20 pour en apprendre davantage.
Chez Équipe-toi.ca, on est des maniaques en machinerie. Et avec l'arrivée de l'automne, on est fiers de vous présenter le petit dernier, le Captain 25 HP hydrostatique, un tracteur sous-compact qui en a long à dire. Hey, on a rajouté 3 000 $ en option, chargeur frontal avec flotteur et troisième option sortie hydraulique, une suspension sur le chargeur avant pour un confort de conduite inégalé, un chargeur avec auto-nivellement mécanique. On est capable de soulever 1102 livres. C'est pas rien ça. 2 ensembles de sortie hydraulique à l'arrière, 3 phares de travail arrière, ajustable, c'est muni d'un moteur Mitsubishi diesel de 25 HP éco-respectueux à faible consommation de carburant et de bruit sonore. Puis en plus, il est garanti 10 heures! Vous voulez en savoir plus? Venez faire un tour. Le financement sur place également prêt ouvert des jardins. Vous pouvez magasiner en ligne équipe3.ca ou aller faire un tour 1504 Boulevard Sainte-Geneviève chez Coutimi-Nord.
Ici Jean-Marc Robitaille du 92.5, votre conseiller publicitaire. Avec plus de 40 ans d'expérience, je peux vous assurer une publicité efficace, personnalisée et rentable selon votre public cible. Votre placement publicitaire au 92.5 ne sera pas une dépense, mais un investissement qui fera grandir votre entreprise. Rejoignez-moi 815-2433 ou par courriel jmrobitaille@commercial.org. Au 92.5, on pense à nos clients.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5. Météo.
Ben pour ce soir, en fait, pour aujourd'hui, d'abord, on parle de nuages, des averses qui devraient débuter en après-midi. Donc, pour ça, comme c'est un petit peu gris ce matin, on parle de mercure de 19 degrés. Ce soir et cette nuit, des averses, des nappes de brouillard également qui vont se former au cours de la nuit. Un minimum prévu à 10. Donc, on demeure au-dessus des normales de saison qui sont de 12 de jour et de 3 la nuit. Demain, soleil devrait être là en après-midi. Un petit 40% de pluie en matinée. Mercure prévu de 20 degrés. Actuellement, à Saguenay, on a 11.
Radio d'ici.
Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Max Bradette. Max Bradette. Max
Bradette. Oh, avec Max Bradette ce matin. Max, il est temps que la saison commence parce que là, les joueurs, tout ce qu'ils ont le goût, c'est de s'arracher la tête. Encore hier, des gestes disgracieux dans le match entre le Canadien et les Sénateurs. Ça continue de même, ils vont manquer des gros éléments pour débuter la saison. Puis pas seulement chez le Canadien, mais dans les autres équipes. Là, le jeune Celebrini, premier choix repêchage, qui avait eu une vilaine chute hier, en échappé. Gardez-en pour la saison, là.
Moi, je pense tout simplement, Dominique, qu'on dit chasser le naturel en revient au galop. Puis quand l'histoire se répète continuellement, c'est des belles paroles qu'on dit, mais c'est exactement... Là, on va embarquer dans un règne parce que de plus en plus, c'est difficile de jouer dans la Ligue nationale. De plus en plus, il y a des écarts de salaire entre ta masse salariale, c'est-à-dire tes 4-5 joueurs les mieux payés.
Et les autres.
Et le reste de l'équipe. Fait que ça donne les résultats qu'on a là. Il y en a qui vont tout faire pour se tailler un poste, tout faire pour rester dans la Ligue nationale. Tu sais, je te parle des joueurs de soutien, là. Le troisième puis le quatrième trio, puis un ou deux défenseurs. Ben, c'est ce qui se produit, puis c'est ce que ça va donner. Ça ne s'atténuera pas avec le début de la saison, Dominique. Ça va augmenter avec l'intensité. De plus en plus, tu as de la parité. On l'a vu l'année dernière, quand on disait Philadelphie, ils ont imposé un point de faire les séries. Oui. Ça fait que la parité est de plus en plus présente. Ça fait que les coups de cochon, tu sais, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Oui.
Puis le hockey, loin d'en faire exception, malgré tous les petits scandales qu'on a de cachés, qui vont bientôt ressortir également, on n'a qu'à penser au hockey junior, ça sera pas beau tantôt. J'ai eu quelques informations, puis il y en a qui vont faire du sang de couleuvre. Ça, je peux t'en garantir. Puis quand je te parle d'informations, c'est des gens qui sont à la, ils sont à la fine pointe du dossier. Ça fait que de plus en plus, ça va on va assister à du hockey, à des coups de cochon, à des blessures graves. T'as rien qu'à penser, là. Écoute, dans les deux derniers matchs, on a vu à peu près 5 tentatives de blessures.
Oui. Écoute, hier encore, Kirby Dack. Je suis sûr que les gens ont retenu leur souffle quand Kirby Dack est tombé au sol puis a pris du temps à se relever, là.
Mais Jacka, il n'a pas été mis avec Stutzel, là.
Non, effectivement, Stutzel n'est pas revenu dans le match.
Fait, quand tu regardes ça, puis là, ce qui fait que tu mets des joueurs à risque, des joueurs comme Caulfield, Hudson, Suzuki, ces joueurs-là vont être à risque, Dominique, là. Parce que chez le Canadien, là, à part le soi-disant shérif, qui soit dit en passant, hier avec Tatcha, qui n'a pas trop bien paru, là, le shérif.
Il l'a pas eu facile.
Non, le Tatcha n'avait pas peur pantoute, là, oublie pas ça, là. Il est allé le chercher, là, où c'est toi, mis en échec, il est allé le chercher. Puis là, on pourra dire, non, il n'a pas pogné en cochon, ils se sont pognés face à face. Puis il va en avoir d'autres, il va trouver chaussures à son pied, là.
C'est sûr.
Jacky, là.
Absolument.
Là, c'est la septième merveille, mais le meilleur batteur, un des meilleurs, sinon le meilleur dans l'année, Delaurier, il l'avait à Montréal, puis ils l'ont laissé aller.
Ils l'ont laissé aller.
Il l'avait, puis Dieu sait qu'il serait que moi, là, avec les schtroumpfs qu'ils ont, là. Parce que non, mais c'est une réalité, Dominique, là, OK, voilà. Imagine-toi, là, si on arrive vers la fin de saison, qu'il reste 7-8 matchs, que c'est le calendrier est tough, que c'est serré, qu'il y a une double, une triple égalité pour une place, les deux dernières places d'un série. Je pense qu'il n'aura pas des coups de cochon, là.
C'est sûr et certain.
Puis là, ben, nos experts, nos amis qui sont dignes de des publicités pour Préparation H, ben, vont nous dire, hey, c'est le hockey des séries, on prépare les séries, parce que quand c'est un joueur du Canadien qui donne un coup de cochon, c'est pas grave, mais quand c'est un joueur d'une autre équipe, ben, c'est parce qu'il y a un moment donné, faut que tu vois ce qui se passe à la patinoire. OK, hier, bon, ben, je déplore ces gestes-là des deux côtés. Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais il reste que le Canadien n'est pas armé pour jouer ce hockey-là.
Ouais, hier, ils ont démontré qu'il n'y avait pas grand-chose, non?
Puis, tu sais, tes bons joueurs, c'est des petits joueurs. T'sais, on ne peut pas dire le contraire, là. La grande majorité de tes bons joueurs, là, en tout cas ceux sur qui on fonde un espoir. C'est des petits joueurs. Écoute, je les vois mal, là. Puis comme on disait hier, là, on en parlait hier, Toronto avec Bérubé, là, ils joueront pas du hockey de patinage de fantaisie, là.
Ça va jouer rough. Puis Ottawa, on connaît déjà leur style de jeu. Non, écoute, les joueurs, les petits joueurs cette année, puis pas seulement chez le Canadien, sont mieux de garder la tête haute.
Non. Puis dans bien des équipes, parce que ça va jouer comme ça, là. C'est comme ça que ça va jouer. Pense pas que Philadelphie, ça va être des enfants de cœur non plus. Eux autres, ils vont le protéger, là, Mishkov, là. Eux autres, ils vont trouver un moyen de le protéger, Mishkov, là. Mais le Canadien, qui protège les Hudson, les Caulfield, les Savarsky? Qui les protège? Dis-moi qui est sur le Canadien, à part le soi-disant shérif, qui va en avoir plein les bras.
Parce qu'à part lui, là... on a déjà plein les bras.
Tu sais, à part lui, qui tu peux... Tu sais, demain matin, là, tu regardes... on l'a vu avec Toronto, là. Toronto peut en mettre 5 sur la patinoire en partant, puis ils peuvent vider... Puis je te dis pas que ça va se produire, mais ils peuvent vider à l'as de l'autre bord. Ou, dans deux chiffres, ils peuvent désosser la moitié de l'équipe de l'autre bord.
Ouais.
Mais tu sais, c'est... Puis ça, on parle dans la division ici, mais ça va être pareil dans l'Ouest. Puis plus ça va aller, plus ça va se battre, justement. Le hockey va revenir... Je te dirais que le hockey va revenir encore plus violent qui était peut-être dans les années 70-80, là, où ce qu'on disait, parce que oui, il y avait des batailles, il y avait des affrontements, mais là, ça s'affrontait. Mais là, ça va être des coups vifs, parce que c'est des coups vicieux. Moi, je m'en dis que j'ai vu le hockey dans les fins 60, début 70, puis des coups salauds comme Lane a eu, là.
Ben, ouais, des coups, puis des coups à la tête, tu sais, sortir le coude, lever le coude, l'épaule, des coups à la tête, on voyait pas ça dans le temps. C'était face à face, on lâchait les gants, puis ah ouais, go.
Tu sais, tu regardes les coups de genou comme il s'est donné à Lane, puis qui se donne régulièrement à toutes les matchs. On voyait pas ça, Dominique Côté, oui. On voyait des mises en échec, on voyait des joueurs qui lâchaient les gants, qui se battaient, il y en a qui mangeaient. Même, c'était exceptionnel quand tu voyais un KO, tu comprends, mais maintenant, ils n'ont plus besoin de se battre. Ils sacent un swing, puis ils vont t'en ramasser un, puis voilà. C'est une commotion cérébrale. Ça, en plus, depuis qu'on a enlevé la fameuse ligne rouge,
c'est encore pire.
C'est encore aggravé, parce que là, ils peuvent se prendre un swing d'un bout de la patinoire, aller t'en ramasser un autre, ou le gars s'en vient avec la poque un petit peu à tête basse. Il se fait relever le chignon. Mais ça, on va en voir de plus en plus. Puis avec une parité, ça va devenir bestial. Je t'en fais une prédiction. Ça va être une des... Parce qu'écoute, même les années passées, les débuts de saison, les matchs hors concours, c'était pas comme ça, là. C'était pas cochon comme ça. Ça, c'est un présage pour la saison. Avec la fin de saison de l'année dernière qui était très, très serrée, Dominique, il va avoir de l'action, puis ce sera pas beau toutes les soirs dans la Ligue nationale. En tout cas, c'est l'effet que ça me donne. Là, c'est facile de dire, c'est chercher, autrement dit, quoi se mettre dans le visage pour pas voir la vérité. Ouais. Mais t'avouer, les matchs pré-saison cette année sont 10 fois, pas 2 fois, sont 10 fois plus dangereux puis violents que les années auparavant. Ça, c'est le présage de ce qui s'en vient. Le hockey moderne, la nouvelle génération.
Max, là-dessus...
Moi, je pense que c'est ça qui va se produire.
Ben écoute, puis je suis d'accord avec toi parce que je vois ça aller, là, puis c'est en train de déraper, puis la saison... Comment tu dis ça?
Non, on va finir un concours de lifting, m'a remonté à la face.
Hey Max, on va
espérons que les gens de Québec vont être servis à oui. Soi demain. Là, tout ce qui nous manque, c'est un match pré-saison dans le House of Pain à Laval.
Ah, oh, tabarnouche. Mais dans le House of Pain à Laval, ça va commencer vendredi la saison avec les pétroliers de Laval. Puis en plus, c'est les Marquis de Jonquière qui vont être les visiteurs. On va s'en parler d'ici vendredi, mon cher Max.
Il va y avoir du sang et encore du sang.
Salut, Max.
Bonne journée.
Il est 8h51. On est déjà rendu à la conclusion de cette émission du mercredi 2 octobre. Éric, tu as quelque chose?
Oui, je voulais rajouter quelque chose sur l'amphithéâtre, pas sur un article du quotidien du 26 septembre 2023. Wow. Et le nouvel amphithéâtre d'un coup monté dénonce Serge Godreau. Dans le temps, parce que dans l'article, ce qui est intéressant de voir, c'était, tu sais, on avait eu des belles images. Vous vous rappelez de cette image-là, entre autres? Une image, tu sais, qui avait été faite par Informatique, une étude.
Ouais. Ouais.
L'étude, dans ce temps-là, qui avait été faite hors de la région, avait coûté 5 000. Et là, on prépare quoi?
600 000, 700 000.
Trois petits points.
On est rendu qu'une autre.
Disait que c'était orchestré. C'était carrément du politique qui jouait là-dedans. Puis après ça, puis on faut je me demande s'il y a raison. Un article intéressant si vous voulez le relire.
Ah, à suivre là-dessus. OK. On vous souhaite une très belle journée. Annick Bilodeau s'en vient dans quelques instants. Hey, bonne fête à Jello aujourd'hui. Hein?
Oui,
hey, c'est vrai. Jello, c'est ta fête à Jello. Oui, Jello. Ils sont proches, Annick et Jello.
Ben oui, à quelques jours, à peine deux jours de différence.
Après ça, ça fête à mon père, mon frère et ma mère.
Ah oui?
Je ne sais pas dans quel ordre, demain puis après-demain.
OK.
Pense mon frère, t'en prends. Facebook va me le dire demain.
Oui, c'est l'avantage de Facebook. André, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui?
Rien de spécial. Rien de spécial.
C'est découragé qu'il y avait quelque chose à surveiller.
Ben, c'est parce que je pensais, on va avoir quelque chose à vous présenter dans quelques secondes là, au bulletin de nouvelles. Il y a eu une importante intervention policière hier du côté de Jonquière sur la rue Saint-Luc avec 20 patrouilleurs. Hein? Je vous en parle dans quelques secondes.
Oh, OK.
Trois personnes arrêtées. En tout cas, je vous en parle, ce ne sera pas bien long.
Okay.
Il n'y a rien à surveiller pour ça, là, tranquille aujourd'hui.
Donc, on vous souhaite un bon mercredi, une bonne journée. Simplement, Bilodeau s'en vient et on se quitte avec la pensée du jour.
Plus je vieillis, plus je deviens fort.
Ah oui?
Oui, aujourd'hui, j'arrive à lever 100 pièces d'épicerie d'une seule main. D'après moi, parti comme ça, l'année prochaine, ça va être 150.
Ça, c'est raide.
Extraordinaire.
On lâche pas.
Ici Michel Tifo, accompagné de Dominique Bolduc. Je vous invite tous les vendredis avec Jean-Michel Tremblay qui fait le tour de la planète pour tous les grands prix de Formule 1 en course automobile. Dans le vestiaire, la seule émission de sport de la région, de 15h30 à 16h30, du lundi au vendredi au 92.5, ma radio d'ici.
Les nouvelles au 92.5.
Alors, parlons de cette intervention. Bergala, on l'a? Oui, Bergala est là. OK. Alors, M. Bergala, excuse-moi, j'aurais dû dire M. Bergala. Bergala, on se parle régulièrement, vous comprendrez, Hervé et moi. Alors, écoutez, il y a eu une intervention policière hier du côté de Jonquière, de la rue Saint-Luc à Jonquière. 20 agents de police à partir de 21h le soir, mais je ne veux pas voler le punch à Hervé. Fait qu'on va écouter le porte-parole du service de police de Saguenay, Hervé Bergala, qui nous raconte exactement ce qui s'est passé sur la rue Saint-Luc à partir de 9h hier soir.
Sur la rue Saint-Luc, il y a eu un événement à partir de 21h. On a fait un périmètre qui a duré jusqu'à 4h du matin, au bout duquel trois individus auront été arrêtés pour possession d'armes et possession de drogue, et possiblement divers autres chefs d'accusation. Les individus vont comparaître au cours de la journée. Le périmètre est présentement levé. On n'est pas en mesure présentement de relier cet événement à l'événement de dimanche ou aux incidents de violence armée sur le territoire depuis l'hiver dernier. Par contre, l'enquête suit son cours et verra à établir ou non s'il y a des liens à faire entre ces histoires.
Alors, voilà, ça restera déterminé. Aucune évacuation n'a été nécessaire, étant donné qu'il était 9h le soir. Les gens ont été simplement invités à demeurer en sécurité à l'intérieur de leur résidence le temps que ça se règle. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, réitère l'importance d'être bien ferré quand on veut présenter un projet d'amphithéâtre. Madame Dufour réagit ainsi au questionnement sur la pertinence d'y aller, encore une fois, d'un appel d'offres pour une étude financière ou d'ingénierie pour la construction d'un amphithéâtre de deux patinoires sur le terrain du centre Georges Vézina. Donc, la mairesse a donc justifié la demande de cette nouvelle étude, disant que ça prenait beaucoup de documents, beaucoup d'ingénierie, il fallait être ferré et bien préparé pour que le dossier soit préparé et présenté d'une façon solide. Et en terminant, oh mon Dieu, on est en avance ce matin, on a du temps. Mario Omar Sanguinez Lopez a été déclaré coupable de l'homicide qualifié de Victor Masson hier par les autorités mexicaines au terme d'un procès qui aura duré 6 mois. Telle est la confirmation que le frère de la victime, Édouard Masson, a livrée au journal Le Quotidien. Rappelons que Victor Masson, 27 ans, avait été tué à sa sortie d'un bar au Mexique en mai 2023. Il était alors en voyage en compagnie de sa conjointe lorsqu'il a été tué par balle dans sa voiture. Sanguinez Lopez, qui avait été accusé quelques jours après le meurtre, risque maintenant de connaître une sentence de 30 à 40 ans d'emprisonnement. Édouard Masson a confié que malgré le verdict, la famille Masson est toujours inquiète, notamment sur le fait qu'il pourrait y avoir une demande d'appel dans la cause. La prochaine audience est prévue mardi prochain, 8 octobre. Et en terminant, du côté des États-Unis, le fameux débat entre les deux colistiers Jim Valls et Jim Evans mardi soir n'aura finalement pas fait vainqueur. Selon bon nombre d'observateurs politiques, c'était assez partagé de part et d'autre, selon les commentateurs politiques. Le ton très civilisé des échanges contrastait d'ailleurs avec ce que les téléspectateurs américains ont pu voir et entendre dans les dernières années en termes de débats électoraux. La meilleure cordialité a donc permis de bonnes discussions de fond sur des enjeux comme l'immigration, la santé, l'économie. Les attaques personnelles étaient donc rarissimes hier. Et autre signe de la civilité qui régnait hier soir dans ce débat, les modérateurs n'ont eu besoin que de fermer les micros une seule fois lors de la présentation de 90 minutes. Le débat entre Valls et Vance sera d'ailleurs vraisemblablement le dernier débat de la présente campagne présidentielle américaine. Donald Trump ayant refusé, comme on le sait, d'affronter à nouveau Kamala Harris. Alors voilà, puis même que, en terminant hier, je vais interpeller Annick là-dessus, le débat était tellement cordial qu'à un moment donné, il y a des gens qui disaient, on a comme l'impression qu'ils sont sur le bord d'aller prendre une bière ensemble
ouais,
après le débat.
C'est ça.
C'était assez cordial, mais quand même, c'est comme ça qu'on aime ça. Écoute, que les
gens soient cordiales. Ben moi, écoute, oui. Je l'ai pas écouté, j'ai vu les commentaires. À un moment donné, cette espèce de chicane a pu finir, de bataille de coq. À un moment donné,
effectivement, puis le fait que ça ait été cordial, ça a permis justement que les débats de fond, comme des sujets importants comme l'économie, l'immigration, ressortent et que les discussions ressortent plutôt que les chicanes.
Oui, puis ça abaisse les tensions aussi quand on voit ça.
Alors voilà. Maintenant, reste à voir si ce débat de la vice-présidente, si on veut, aura une quelconque incidence sur les intentions de vote. Rappelons qu'aux États-Unis, actuellement, c'est très serré entre Kamala Harris et Donald Trump. C'est pratiquement du coude à coude. Alors, restera à voir ce que ça va donner. Pour les nouvelles, pour nos infos, ben rendez-vous sur le ckaj.org, section Journal Radio 92.5.
Rencontrez la culture au sommet du Mont-Jacob avec le Théâtre La Rubrique.
Du 2 au 19 octobre, le Théâtre La Rubrique présente À demain, Moïra. Embarquez dans le road trip kaléidoscopique de Moïra, une jeune mère en crise interprétée par Marie-Lou Guédéchène. Dans ce texte écrit par Annick Martel et mis en scène par Émilie Gilbert-Gagnon, explorez les thèmes de la maternité et de la fragilité psychologique dans une œuvre vibrante. À voir du mercredi au vendredi à 19h30 et les samedis à 15h.
Réservez au théâtrelarubrique.com. Une invitation d'Hydro-Québec, partenaire de saison.
Pour célébrer le premier anniversaire de A&W Arvida, les restaurants A&W de Chicoutimi et Jonquière s'unissent pour proposer aux clients un petit café à 1$ et un délicieux café latte à 2$ tout au long du mois d'octobre. Nous remercions chaleureusement notre clientèle pour sa précieuse fidélité.
Quoi, ici Casey Blacksmith de la station Chouk 107.3. Ne manquez pas l'émission Découverte musicale autochtone tous les samedis 18h au 92.5.